Le Café numérique des arts, lettres et sciences humaines, Université Laval, Québec. Rencontre du 24 novembre 2011. Vincent Mauger nous entretient de la scénarisation interactive.
Merci beaucoup, René. Merci pour la présentation et aussi pour l'invitation, étant donné que, comme on l'a dit, l'École des arts visuels, on n'est pas sur le campus, on est sur le boulevard Charest. Donc, il n'y a pas beaucoup d'interactions entre les chercheurs et doctorants là-bas et d'ici. Donc, ce genre d'événement est à encourager et je vais bien inviter d'autres collègues à se joindre à nous éventuellement. Donc, nous allons parler de scénarisation interactive et pour entrer dans le sujet, on va explorer une partie qui est moins connue de celle-ci. L'écriture des jeux comme tel, donc c'est des gens ici qui sont en scénarisation du côté des études littéraires peut-être. C'est un aspect qui est beaucoup utilisé ici, mais à Montréal, ça bouge pas mal à ce niveau-là. Alors, ça va nous permettre d'aborder un domaine un peu plus large que je qualifie de design narratif. On va l'aborder aux deux tiers du parcours environ. Donc, les six points qu'on va aborder sont donc la différence entre la scénarisation classique, disons, plus linéaire, la scénarisation interactive. On va passer aussi du côté du paradigme, différence entre récit et jeu, pour ensuite rentrer dans le vif du sujet de l'écriture des jeux, des narratifs, et un exemple assez concret de celui-ci, qui est l'élaboration des mondes fictionnels, qui peuvent être partagés dans un contexte transmédiatique qui est beaucoup plus large. Sujet de mes recherches personnelles. Donc, tout d'abord, qu'est-ce que la scénarisation interactive? Scénarisation interactive, qui est souvent multimédia, donc la plupart du temps, il va avoir son image, texte, écrit. Ça s'applique à plusieurs formes, que ce soit l'hyperfiction, les environnements muséologiques, sûrement plusieurs personnes intéressées à ce sujet ici, les environnements virtuels, les installations interactives diverses, des bornes par exemple, les sites web informationnels, les environnements urbains, dans le Vieux-Québec, des événements avec des téléphones mobiles, ce genre de technologie GPS, ça peut être des applications à scénariser de façon tout comme les jeux. C'est donc une constellation de formes qui est en émergence. Ça fait appel tant aux outils de design que ceux de l'écrivain, de l'écriture. Les différences fondamentales, si, au niveau très basique, la scénarisation linéaire serait celle du le paradigme du cinéma, alors que celle interactive serait celle du jeu interactif. Quoique, quand on parle de jeu, ça n'empêche pas la présence de contenus qui soient informatifs, éducationnels, culturels, on peut dire sérieux. Tout au contraire, les jeux qui ont des fortes trames narratives développent un monde fictionnel très riche. Bonjour. Pas de problème. Ceux-ci sont peuplés de personnages et autres éléments, et forment souvent un art dramatique dans un contexte qui place le joueur en situation d'expérience. Ça, c'est un point important, c'est vraiment ce qui caractérise justement l'interactivité de cette scénarisation. C'est au sein d'un environnement qui est aussi non linéaire. On va y revenir. Il y a différents types de design qui interviennent dans ce processus. On peut parler d'un design narratif au sens large, on peut parler de scénarisation. Donc, ça traite vraiment de tous les éléments narratifs du jeu, que ce soit la construction narrative, les personnages, les buts, les objectifs, ce genre de choses. Quoique celle-ci peut être quand même partagée. J'ai tendance à parler aujourd'hui du point de vue de la production, mais quand on se place côté des joueurs, de la réception, ceux-ci peuvent participer à un certain design narratif. Pensons au jeu de rôle, par exemple. Donc, ça, on pourra en discuter. Ensuite, il y a le design d'expérience qui est aussi fondamental. Dans le cas des jeux, on parlait de gameplay, donc les interactions peuvent être autres dans le cas d'applications qui sont moins, disons, ludiques. Mais c'est vraiment ce qui place le joueur interacteur au centre du processus de design. Que ce soit la navigation, l'exploration, la manipulation des objets, par exemple, même les conversations avec les personnages, ça rentre dans cette catégorie. L'interacteur joueur explore un espace de possibilités dans l'environnement. Interactif que le designer conçoit en fonction de lui, en fait. Ensuite, le design d'interface, on tombe quand dans le design graphique, vise la relation entre les actions du joueur et l'espace expérientiel de l'interface. Donc, dans le cas d'un jeu de notification, ça peut souvent être le visuel de la chose, l'objet avec lequel vous allez interagir. Si c'est quelque chose qui est plus concret, ça peut être vraiment le plateau d'un jeu, par exemple. Ensuite, le design d'information qui vise l'organisation de cette information. Ces principes servent autant du côté du design web que de ceux des CD-ROM ou des DVD-ROM, par exemple, sont très utiles à la conception des jeux vidéo, étant donné que ceux-ci ont des masses d'informations parfois colossales. Le grand précurseur, donc livre-jeu, et peut-être des fans ou des souvenirs de jeunesse qui vont émerger chez vous, c'est souvent connu sous le nom des livres dont vous êtes le héros, étant donné que c'est le nom de l'édition, le nom de la maison d'édition la plus connue en France. Donc, c'est un précurseur de la fiction interactive. Son heure de gloire, c'était les années 80, début 90. Ça a amené beaucoup de lecteurs au jeu de rôle, en fait, un autre loisir. Donjon Dragon, il a été beaucoup inspiré par en fait, les auteurs ont été inspirés par Donjon Dragon, puis l'espèce de mécanique porte-monstre trésor. Il y a peut-être des gamers dans la salle qui vont être on connaît le principe, donc on explore un environnement, on découvre une place, il va y avoir un opposant, on le vainc et on a une espèce de récompense, donc on progresse comme ça. Ça intègre souvent l'usage de caractéristiques, que j'ai surligné, c'est un point important. Caractéristiques, c'est comme lié à des points, à des valeurs numériques, par exemple. C'est le côté, disons, comme systémique le pendant de la caractéristique va être la caractérisation au niveau narratif. Donc, un personnage peut être décrit de façon portrait, psychologique, caractériologique, physique, tout et tout. Mais le pendant du système pour un jeu, ça va être les caractéristiques. Donc, on va souvent associer des statistiques à toutes ces qualités-là pour que ça soit maniable dans le système. Donc, dans un livre comme ça, ça va être les lancers de dés qui vont être l'interface, qui vont représenter les interactions entre les héros et les opposants. Cette structure-là est souvent composée toujours par une arborescence. Donc, l'arborescence, dans ce cas-ci, c'est le lecteur qui va suivre les différents paragraphes numérotés. Un petit exemple ici, donc vous êtes au premier, vous avez le choix entre le 34, le 45, etc. Et vous allez guider au long de divers chemins. Habituellement, il y en a juste un qui va conclure l'histoire de façon positive. Il y a moyen d'en faire plusieurs. Évidemment, dans les jeux, il peut y avoir deux, trois fins. Plus, le problème avec une structure de la sorte, surtout dans les jeux vidéo, où on a plus de place que dans un livre, c'est que ça fait une explosion de l'information. Donc, au niveau du budget ou la quantité, le pourcentage de chances qu'un utilisateur passe par une branche sur 8, par exemple, est assez faible. Donc, c'est certain que les producteurs vont avoir tendance à dire aux designers de couper ces ennemis-là et prenez quelques choix à place d'une multitude, ce qui serait intéressant. Donc, on va avoir tendance à aller vers d'autres structures que l'arborescence, qui est assez contraignante. Souvent, ça va être une illusion de liberté. Donc, deux choix, on va toujours avoir les deux choix, par exemple, on va avoir l'impression d'être libre. Au cours de notre expérience, on va toujours avoir exercé notre choix, justement. Des points communs entre ici et jeu, ça repose sur la création d'un monde fictionnel, peuplé d'identités, donc personnages, lieux, etc. Celui-ci va reposer sur la suspension volontaire de l'incroyance, donc « willing suspension of disbelief », célèbre Coleridge. Donc, selon ce principe, le spectateur ou le joueur, il oublie la logique qui prévaut dans le monde réel pour rentrer dans la fiction. Hein. Harry Potter, tout le monde vole sur les balais, puis son magicien, c'est normal de faire ça. Dans les jeux de Spider-Man, c'est normal qu'on tire des toiles dans les airs, puis qu'il n'y ait pas de building, puis qu'on suspende quand même. C'est le même principe. Il y a l'action du personnage aussi qui est centrale, quoi qu'il y ait des exceptions du côté des romans et tout, il y a des courants particuliers, mais disons, en général, la performativité toutefois est plus propre aux jeux interactifs. Dans les jeux informatiques, les principes narratifs et ludiques, il y a juste de façon vraiment complémentaire. Donc, la trame narrative doit se concilier cependant avec la situation expérientielle parce qu'elle est au cœur du jeu. L'univers narratif qui a donc un contexte qui est significatif, il contribue à l'immersion du joueur ainsi qu'à son engagement dans l'univers ludique. Donc, les deux vont vraiment de pair. C'est important qu'il n'y en ait pas un qui contraigne l'autre. C'est plus facile de faire une histoire forcée dans un jeu qui va ruiner un jeu que le contraire. Une mauvaise histoire dans un jeu peut donner lieu à un bon jeu tout de même. On va pouvoir critiquer l'histoire, mais le jeu peut être bon en soi. Le contraire va habituellement ruiner le jeu. Des apports du récit, donc c'est l'investissement émotionnel, évidemment. Le récit, c'est une forme fondamentale par laquelle l'humain assimile puis communique son expérience. Donc, c'est un outil d'apprentissage comme un outil de compréhension du monde, c'est majeur. Les éléments narratifs contribuent à ça. L'immersion fictionnelle, la trame ajoute de la complexité au niveau symbolique. Puis en créant ce contexte symbolique-là, où prend racine l'action du joueur, la trame narrative revêt une fonction sémiotique. Donc, il y a plus une couche de sens supérieure qui s'ajoute. La trame procure une structure logique ou une causalité qui encadre les actions du joueur et son expérience. Donc, les distinctions ensuite. Ça repose sur l'implication du joueur dans l'univers fictionnel. Celui-ci peut être délaissé dans d'autres types de récits, comme les récits filmiques, dans ce cas-ci. Dans le cas du médium interactif, le joueur est vraiment en situation d'expérience, donc il participe au monde fictionnel. Il doit être actif en contrôle, même s'il s'agit d'une illusion de liberté, comme j'ai dit un peu plus tôt. Le concepteur de jeu, il établit un monde fictionnel, donc on parle d'arène, où se situe l'action. Il place ses personnages à l'intérieur de ce monde-là, puis le monde va réagir à présence aux actions du joueur. Donc, c'est pas le cas d'un film, d'un roman, où on va se laisser à suivre au cours ou guider par le personnage. Le jeu d'affrontement narratif peut aussi se fonder sur une structure dramatique qui met en jeu un principe de transformation, objectif, obstacle, enjeu, donc il y a un parallèle assez proche. Les actes ce genre d'actes de progression, toutefois, dans le contexte des jeux, le récit devient expérience et performance. Donc, c'est vraiment important de le garder en tête. Donc, pour résumer, au cinéma, c'est un récit en image, on va dire « don't tell show », montrez pas, montrer justement, parce que dans le jeu, ça va être performé, donc il faut pas montrer ou raconter, il faut vraiment faire. La progression, tant du côté de l'art dramatique, j'ai un exemple ici, que celle du design de niveau suit ainsi une courbe. Donc, dans un film, par exemple, le protagoniste, il doit affronter des obstacles de plus en plus difficiles, tandis qu'au niveau du jeu, bien, c'est le degré de difficulté qui va augmenter d'un niveau à l'autre. Donc, il y a vraiment un parallèle qui peut être établi avec la dramaturgie, l'intensité dramatique, la progression scénaristique. Sauf que la durée de vie plus longue des jeux, ça encourage les concepteurs à redoubler le second acte, une structure en trois actes classiques que je vous présentais, comme la plupart des films hollywoodiens. Donc, on va avoir tendance à en rajouter un après, et ça peut être répété par la suite, donc ad infinitum, ad libitum. Dans certains jeux, on va toujours répéter les mêmes processus. C'est le problème de plusieurs jeux massivement joués en ligne, où la profondeur peut être critiquée. Il y a plusieurs exemples de structures dans ce genre-là. Fixe avec plusieurs actes. On parle de Tomb Raider, Diablo, par exemple. Ce genre de jeu, c'est structuré pareil comme un film, type. Rapport entre la progression dramatique et l'expérience du joueur, ben, si on regarde en tête que le récit, c'est une transformation linéaire, un principe de relation de cause à effet, son intégration dans un environnement interactif non linéaire, ben, ça va vraiment pas de soi. Donc, il y a toujours une tension entre les modes narratifs puis interactifs. Il faut donc intégrer l'art du récit et de la dramaturgie au principe du design d'environnement interactif. Et ça peut être assez corsé. Pour l'illustrer, on va rentrer dans l'écriture vidéoludique. Tout d'abord, c'est quoi les faiblesses du programmeur ou du designer quand il veut écrire? Ben, il y a plusieurs présuppositions. Donc, tout le monde peut écrire. On entend souvent celle-là. J'ai regardé un film, donc je peux faire un scénario. Pas nécessairement, même déjà la langue française, c'est un bon défi. J'ai lu un roman l'an passé, donc ben, je peux en écrire un. Non, ça demande du travail, de la pratique et de la correction, et il faut maîtriser son ego quand même. Il y a une certaine naïveté derrière ça. En fait, on ignore ce qu'on ne connaît pas. Par exemple, la complexité de la scénarisation. Pour un petit exemple ici, une très courte scène peut avancer le dénouement, donner des infos sur les personnages, leurs relations, les aspects de la relation, leur ambivalence, le développement émotionnel, employer des dizaines de techniques dialogiques pour qu'elles semblent naturelles, pour faire communiquer des sentiments cachés du côté des personnages. Ça peut rendre cette scène particulièrement poignante, ça peut renforcer les thèmes de la série, de l'épisode, introduire des petits éléments, on appelle ça payback, on va les récupérer plus tard dans le scénario, ou employer artistiquement des symboles. Donc, il y a beaucoup de choses qu'il faut mettre en, évidemment, très peu de mots. Ça, pas tout le monde qui en est conscient. Et alors, le jeu n'est pas un film, dira-t-il. En effet, cependant, c'est un médium audiovisuel, sa structure, ça rapproche davantage du roman, de la série télévisée, mais c'est ça le problème, c'est que l'intensité filmique est toujours recherchée. On compare les jeux vidéo au film pour l'aspect photoréaliste, par exemple. Par contre, l'abondance de cinématiques n'est pas toujours attirante, surtout dans le marché américain, en fait. Les Japonais sont plus friands de ça, mais ici, c'est pas nécessairement le cas. Faut pas oublier qu'à chaque fois qu'on met un bout de film cinématique dans un jeu, on enlève le contrôle du joueur. Donc, ce n'est plus un jeu, on regarde un bout de film. Quoique ça peut être une belle petite récompense, là, en laisser des courtes, mais faut garder en tête qu'une longue cinématique, c'est on transforme notre joueur en spectateur passif. Autrement, l'écriture, les failles de l'approche du littéraire, qui peut être, ma foi, très compétent pour écrire, scénariser ou rédigé. Le problème de la ligne droite. Donc, il y a certains troubles égoïstes de l'histoire voulue. Donc, le scénariste a vraiment écrit la meilleure histoire du monde pour ce jeu-là. Mais il oublie que c'est pas son histoire, c'est celle du joueur. Alors, ça peut vraiment causer des problèmes. L'histoire peut même être ignorée par les joueurs. Il y en a qui s'en fichent totalement, qui veulent juste performer, passer au travers du jeu, profiter de ses mécaniques. L'ordre des événements du récit aussi est potentiellement variable, même encouragé, étant donné qu'on a un médium qui est propice. Explorons ces possibilités. La création de rôles jouables aussi est vraiment différente de la création de n'importe quel rôle de personnage classique. Donc, l'identification ne s'opère pas de la même façon. Lancé dans un jeu, vous êtes le meilleur pilote du monde et vous mettez à jouer et tout. C'est pas nécessairement le cas. Peut-être que vous connaissez bien l'aviation. Les contrôles vont totalement vous rebuter. Vous serez pas capable d'entrer dans l'expérience. Ou encore, vous êtes un héros mythologique grec, ma foi, hyper puissant et tout, et on détruit tout. Si cette journée-là, vous avez vécu des événements plus difficiles, peut-être que l'identification ne sera pas nécessairement avec ce genre de personnage-là. Vous allez avoir envie de jouer à d'autres choses. Donc, il y a quand même une différence entre les deux. Alors, les sentiments du joueur doivent être pris en compte. Et la liberté du joueur aussi, qu'on a abordé brièvement. Il faut toujours la garder en tête. Les dialogues en jeu, qu'on a aussi brièvement abordé, ils doivent être d'une taille minimale. C'est encore plus court qu'au cinéma, habituellement, étant donné qu'on veut jouer, on veut pas écouter des gens ou lire des sous-titres. Alors, l'émotion, par rapport à l'information dans ces dialogues-là, c'est encore un conflit par rapport aux mots. Faut transmettre plus de choses par ceux-ci. Les cinématiques employées avec parcimonie, étant donné que le scénariste aura tendance à vouloir en mettre beaucoup, étant donné qu'il y a c'est une facilité pour lui de les créer. Le processus de création est fort différent aussi, étant donné qu'il est en équipe. Il peut être aussi solitaire et sans ressources, vraiment isolé tout seul, un peu comme un rédacteur professionnel qu'on engage. Mais sur la plupart du temps, c'est une équipe qui crée les contenus. Donc, derrière tout ça, chacun a ses idées, donc ça fait difficile de toutes les mettre ensemble. Il y a souvent quelqu'un qui dirige la direction du projet. Donc, il n'y a pas vraiment la place à l'ego, la place à une diva ou une espèce de rockstar dans un environnement comme ça. Ça peut ruiner le projet ou rendre le travail plus difficile. Vous avez sûrement vécu des situations du genre dans des travaux d'équipe. Donc, chacun a des idées. Le travail est souvent aussi à compléter. Ça peut être particulier. Mais vous n'êtes pas l'initiateur du projet, par exemple. Vous engagez pour écrire telle partie, ou pour écrire tel dialogue de tel personnage, ou encore, pire, tous les dialogues de base sont faits. Vous faites juste les 70 variations de chaque soldat de la Deuxième Guerre mondiale qui meurt à cette scène-là. Donc, c'est juste... ça peut être vraiment très répétitif. Donc, c'est ça, le travail qu'on complète. Et la culture du jeu aussi est nécessaire, donc... Pour éviter la répétition, c'est bien de connaître différents types de jeux, la compétition, ce genre de choses. Les différents rôles et tâches, pour le game writer, donc le auteur, rédacteur de jeu, les dialogues et les différents types de documentation, c'est le cœur de son travail. C'est pas de la programmation du design de système comme tel. Les auteurs répondent des développeurs, ils vont pas créer les jeux comme tel. Ils enrichissent leur forme, donc un peu à l'instar des artistes visuels. Il y a des choses avant les jeux. Donc, les tâches vont être, par exemple, l'écriture des détails du récit, des contenus qui sont rédigés à même du jeu, dans le jeu ou à l'extérieur. Par exemple, on peut penser au manuel, c'est l'itinéraire avec les jeux, les tutoriels, les textes à l'intérieur, les remerciements, les guides de stratégie, ça dépend des produits dérivés. Il n'y a pas de format standard pour l'écriture à l'intérieur du jeu comme tel, il y a souvent des scripts interactifs, par exemple. Toutefois, les logiciels du genre Excel sont appréciés. Pourquoi? Ils ont un nombre illimité de colonnes et de rangées dans Excel ou autres logiciels du genre. Donc, les données sont extractables facilement à des bases de données. On peut automatiser tout ça. Manier divers formats de présentation, c'est une compétence essentielle, surtout à haut niveau. Justement pour répondre aux besoins de tout le monde, comme les programmeurs, les animateurs, les acteurs ou les gestionnaires, on n'a pas besoin des mêmes détails dans ce super document-là. Alors justement, le fait de pouvoir extraire chacune de ces parties-là, c'est utile. On peut produire des documents personnalisés un peu selon le rôle professionnel qu'on cible. Donc, tâche centrale, c'est la rédaction de ces documents lourds-là. Donc, la plupart, c'est des documents de promotion. Donc, on parle de pitch doc pour essayer d'avoir un projet quand on est un studio qui fait partie d'une corporation plus grande ou pour avoir une franchise, par un nouveau jeu de Disney, par exemple. ou bien des documents directeurs, on peut donc executive docs, donc un plan typique, donc sommaire, analyse de la clientèle, audience, résumé de l'histoire, donc ça peut être assez problématique quand notre jeu est fait de façon matricielle ou qu'il n'y a pas de trame vraiment linéaire, qu'il y a plusieurs choix possibles, mais il faut qu'on donne quand même un aperçu général. On analyse la compétition, le marché, on va décrire évidemment le gameplay, c'est un jeu, puis il y a certains budgets calendriers. Alors, la plupart de la conception puis des recherches qui ont rapport au marketing ont été faites par des professionnels, mais l'entretien de la documentation va alors être délégué à un game writer. Il va absolument gérer des wikis, tout simplement parce qu'ils sont, on peut les modifier au jour le jour, on peut interagir à plusieurs, donc c'est fort utile. Et les autres documents qui doivent être écrits à cours de production et aussi maintenus par exemple entremise de wiki, ça va être le Game Design Document, GDD, pardon. Donc ça contient les contrôles, par exemple la description des comportements d'intelligence artificielle, l'interface, les opposants, le head-up display, HUD, donc c'est les interfaces tête haute. Qu'est-ce qu'on voit à l'écran pendant qu'on joue, par exemple, des fois ça va être nos points de vie, les munitions, il y a peut-être une carte pour nous orienter, là. Ça peut être dans la fiction ou non. Il y a les cinématiques, les scripts et les dialogues, évidemment. Donc ça peut être aussi évidemment écrit par le game writer. C'est sa force. Art Bible, c'est vraiment tout ce qui contient les dessins conceptuels, les ambiances, les détails techniques des objets 3D, par exemple. Story Bible, c'est un document qui est parfois à part. Des fois, c'est inclus dans celui de design, mais quand le jeu est très, très, très riche sur le plan narratif, la description du monde fictionnel et les détails du récit vont être mis à part pour permettre de prendre plus d'espace et de développer le monde. Le document de design technique, lui, ça va être plus précis, évidemment, ça va être les besoins et les conditions des programmeurs, le design architectural du moteur comme tel, donc vraiment l'architecture informatique qu'il y a derrière, le rendu visuel, les pratiques standardisées, les interfaces, puis les rôles des non-programmeurs pour interagir avec cette chose. Il y a aussi la localisation des contenus informatiques dans le projet. Les autres documents, ça peut être par exemple la gestion. Donc, ça se mène vers le design narratif, donc il comprend cette écriture-là. Donc, une chose qui est très importante, c'est le processus itératif de design. Peut-être que vous êtes familier, c'est souvent trois étapes. Donc, on va toujours concevoir, donc au départ, l'idéation, passer vers le prototypage, pour évaluer, et on va toujours recommencer. Évidemment, il y a des sous-phases. On a un exemple avec un site web ou pour un jeu qui est tout le temps en ligne. Mais éventuellement, on va le mettre en ligne, et en plus, on va continuer à l'entretenir par la suite. Donc, c'est vraiment un processus qui se répète. Il faut plus le voir comme une spire, donc une espèce de vis dans le temps qu'un un cercle qui tourne sur lui-même. Donc, petite introduction au design. C'est quoi le design? J'aime bien retourner à son étymologie première pour bien fixer les bases. Donc, désigner du latin, donc donner un signifiant, donc c'est donner du sens à design, aux choses pour quelqu'un. Ça varie aussi selon les langues et les cultures, même selon les designers. En allemand, par exemple, on va parler de mise en forme des idées. C'est la mise en forme, la théorie de la Gestalt. C'est au-delà de la génération de ces idées, la première phase nommée conception, ou mieux, c'est idéation. En anglais, par exemple, c'est beaucoup plus large. Le design, c'est un plan mental d'où résulte la création d'objets, de projets ou d'actions. En allemand, on parlait de Gestalt, donc la mise au monde de la première forme. Il y a aussi un certain biais, aller vers la finalité des choses qu'on peut sentir même de nos jours, ici, quand on parle d'un bon design, on va souvent avoir l'objet physique en tête, mettons, le design d'une voiture ou d'une pièce, d'un vêtement. Alors que le design, c'est un processus plus large. En français, étymologiquement, intéressant de savoir, c'est lié à dessin, donc purpose, puis le dessin classique, donc le sketching. Les deux sont fondamentaux pour le design comme tel. Qu'est-ce qui le distingue? Ben, c'est une attitude qui est commune chez tout humain, c'est vraiment distingue de l'art et de la science. Si l'art répond de même, on peut dire que le design va répondre de besoins précis. Toutefois, ces problèmes sont vraiment mal définis. Qu'est-ce qu'on veut dire par là, le design? Ben, ça, en fait, on parle de ill-defined problems, qui est un sujet qui est fort étudié du côté des recherches en design. C'est que les objectifs sont souvent flous, il y a souvent une pluralité de solutions. C'est pas comme des critères qui sont très, très précis, comme du côté de la science. Pour bien comprendre la distinction, j'ai deux citations que je trouve à la fois excellentes. Une de Christopher Alexander, qui est un architecte émérite, Il disait « Scientists try to identify the components of existing structures, designers try to shape components of new structure. » Donc, à la place de l'existant, on essaie d'en faire des nouvelles, tandis que Herbert Simons, qui est un économiste prix Nobel, qui est un des fondateurs de la cybernétique, donc certains polymathes, pour lui, les sciences naturelles se concentrent sur comment des choses sont, alors que le design, d'un autre côté, s'intéresse à comment les choses devraient être. Donc, on voit que l'orientation est tout à fait différente. Et le design est aussi une orientation pour l'étude des jeux, comme on discute aujourd'hui. Donc, le jeu vidéo peut être étudié évidemment pour sa forme comme telle, mais d'un côté où on a le design comme la production et la réception du côté des joueurs, mais le jeu aussi peut être vu comme un phénomène esthétique, culturel, social. Donc, il y a beaucoup de possibilités d'études. Donc, les études des jeux sont très larges. Donc, design du récit dans ce contexte, le terme remonte à quand même il y a plusieurs années. Il y a un auteur assez connu aux États-Unis, Madison Smarbell, qui a publié un livre nommé Narrative Design, que c'est difficile à traduire directement en français. De son côté, il parle vraiment de design de récit, qui définit comme cette structure ou forme de première importance et décisive pour toute œuvre de fiction. Donc, c'est vraiment des techniques d'écriture. Il y a qualifié lui-même, d'ailleurs, de craft center, not process center. Donc, on gère des ingrédients de la fiction. Alors, on est plus dans l'artisanat que dans le design comme tel. Il y en voit deux familles. Donc, le design linéaire, qui l'associe au sculpteur. Le design linéaire, il voit ça comme un vecteur qui est pointé vers le futur. Donc, le style de récit il est compris architecturalement, comme une forme statique. C'est pour ça qu'il parle de sculpture. Selon lui, il est vraiment holistique. Donc, on voit une grosse comme forme et on fonce. Le design modulaire, de son côté, serait plus comparé à le travail du mosaïste. Donc, c'est des règles qui sont organiques, libérées de la logique linéaire ou temporelle. C'est vraiment inséparable du sens. Donc, un exemple, un roman classique, on peut facilement l'associer au design linéaire, mais il y a certains travaux intéressants, par exemple, Perret, qui est dans La vie, mode d'emploi, a conçu son roman en suivant les règles du déplacement d'un joueur, d'un pion d'échec, comme le cavalier, par exemple. Donc, il a vraiment basé son récit d'une autre, son récit d'une autre façon. Alors, les deux sont possibles. Ce genre d'approche-là, qui est comme pédagogique du côté de Bell, ça rappelle divers guides de pratiques de création de jeux vidéo, comme par exemple ici, Creating Emotion in Games. Donc, c'est orienté vers des techniques de création littéraire, d'écriture de scénarios de films, dans ce cas-ci, de films, pour les jeux vidéo. Bell parle de techniques d'écriture. Donc, tout ça peut prendre part à la scénarisation interactive, évidemment. Un petit bémol du côté de Freeman, par exemple, les façons de stimuler les émotions du côté des joueurs sont vraiment un type, par l'entremise du récit, c'est vraiment un type parmi d'autres que le médium jeu peut offrir. Là. Celui-ci peut généraliser, pour lui, récit dans les jeux égale émotion, alors qu'on peut stimuler les joueurs de toute façon. Les designs de récit interactifs, quant à lui, ont été développés plus récemment avec les nouvelles technologies numériques. On peut le voir vraiment comme dans l'apex, le cœur entre ludologie, donc l'étude de plus formelle des jeux, la narratologie et le design de jeu, selon Stephen Dinard, mais je préciserais pour le design de systèmes interactifs, étant donné qu'il existe d'autres systèmes possibles derrière ça. Donc, qu'est-ce que ce design-là? Ben, c'est une classe appliquée de design d'interaction ou du design d'expérience, comme on avait un petit peu plus tôt, dont design de jeu fait partie. C'est lié au design de systèmes qui sont porteurs d'une matière narrative et fictionnelle. Il existe différents types de systèmes qui ont été théorisés ou même codés, donc des systèmes en arborescence, différentes méthodes de scripting, des systèmes émergents, il y a des planifications universelles qui sont faites aussi orientées personnages. Donc, il existe beaucoup de choses. On est vraiment dans la programmation brute rendue là. Ça comprend la scénarisation interactive, évidemment, donc l'aspect pré-production, sa phase d'écriture, vidéoludique ou non, tout comme l'idéation et la recherche préliminaire propre au monde fictionnel. Donc, on va poursuivre du côté de l'élaboration des mondes comme tels. Il y a deux perspectives distinctes à avoir en tête quand on parle de création de monde dans ce design narratif général-là. Il y en a un qui on va parler de world building, donc on est vraiment dans la fictionnalité comme telle, création d'un monde. Et l'autre va l'englober. Donc, c'est Harry Jenkins qui parle de world making. Donc là, on est dans la transmédialité comme telle. Donc, si on retourne à World Building, c'est vraiment construction de monde imaginaire. Donc, il prend part à un univers de fiction. C'est un terme anglais des années 70. Donc, on dans les ateliers de création littéraire, de création de science-fiction, de fantasy, on crée nos mondes de façon très, très précise. Les fans de jeux de rôle aussi ont souvent pratiqué ça, ou quand ils sont des maîtres qui guident des joueurs dans leur univers. Donc, il y a diverses techniques pour élaborer ses mondes, son histoire, sa géographie, écologie, même sa métaphysique, si on parle de magie ou de religion, sa population, les différentes cultures. Par exemple, comme c'est peut-être Arda, qui est, ou Midgard, pour les fans de Tolkien, c'est son monde fictionnel. Il y a, pour les plus gamers ou gays, qui a les plans d'existence, ben, plans d'existence en général, il y a le plan primaire. Donc, si on parle de Toril, Férun, dans le fond, c'est dans l'univers de Donjons Dragons type. Toril serait la planète dans un plan d'existence comme le nôtre physique, et Férun serait le continent principal de ce monde-là. C'est comme s'il y avait juste une Eurasie dans ce monde-là. Donc, c'est des exemples de monde construit. Worldmaking est vraiment la façon concrète de les concevoir. Donc, on prend en considération les réalités médiatiques. Donc, M. Jenkins parle du processus pour concevoir ces mondes-là qui vont pouvoir soutenir le développement des franchises. Des mondes qui sont assez définis pour permettre à plusieurs histoires d'émerger, puis aussi de permettre que qu'on sente que ces histoires-là sont vraiment toutes différentes les unes des autres, mais qui aillent bien ensemble. Souvent, il y a un clash entre les différentes histoires, il faut éviter ça. Il y a donc une transition entre différents champs conceptuels, de l'imaginaire à la réalisation concrète. Créer un monde fictionnel demande une recherche documentaire, une réflexion, puis des choix d'auteur, c'est beaucoup de travail. Et aussi un passage de l'idéation à la conception, donc c'est un processus de design. Faut établir ce monde-là dans un ensemble méthodique, ça demande analyse, évaluation, révision. C'est un processus itératif, on a vu un petit peu plus tôt. Donc, les domaines et les spécialités collaborent, on est dans la transdisciplinarité. C'est un défi majeur, tandis que les langages, les objectifs et les échéanciers diffèrent sensiblement. Par exemple, pour un film à grand déploiement hollywoodien, si le scénario est déposé, il est fort probable que dans 2 ans, celui-ci va être en salle, puis il va être superbe. Un jeu vidéo, si on décide de le faire sur la même franchise, 2 ans, c'est très, très court. Surtout s'il faut construire un moteur de toute pièce, on parle de plusieurs années de plus. Donc, c'est pour ça que souvent, les jeux vidéo vont avoir l'air faibles comparativement à l'œuvre cinématographique qui va être jugée comme principale. Il y a aussi le problème économique qui est derrière ça, que les franchises sont soutenues par des majors, donc des studios gigantesques, qui vont utiliser le jeu vidéo comme un produit secondaire, un objet promotionnel, alors qu'on devrait comprendre toutes ces créations-là de façon autonome et les œuvres en soi. Troisième point et dernier de ce côté-ci, il y a un passage de la fiction au support médiatique. Le fait de donner vie à un monde en y insufflant de l'action par une activité, la suggestion d'une expérience directe, ben, c'est modulé par le média qui supporte ce monde-là. Donc, ça influence concrètement les façons d'imaginer ce qui devait se passer dans ces mondes-là, tout comme les approches de conception. Donc, pour vraiment comprendre le monde imaginaire dans un ensemble transmédiatique où cette franchise-là peut vivre. Donc, s'il y a un utilisateur, qui soit un joueur, spectateur, lecteur, ben, pour avoir accès à son monde, ben, il va le voir dans les jeux, plusieurs formes écrites, des bandes dessinées, des jouets, téléphone, télévision, web, musique, plein de choses. Donc, pour résumer, storytelling has become the art of world building. À mesure que les artistes ont créé des environnements attractifs. Pardon. Ah, c'est ça. Donc, c'est pas en faisant seulement un monde qu'on peut avoir accès à toutes les expériences que ce monde-là peut nous offrir. Donc, on peut les explorer dans différents médiums. Tandis que le transmedia storytelling, c'est vraiment devenu l'art de world-making comme tel. Donc, pour vraiment avoir vivre ça, l'expérience de ce monde-là, ben les consommateurs, ils doivent vraiment chasser ou collectionner, acquérir toutes les pièces d'information dispersées dans les différents canaux médiatiques, prendre des notes ou faire des recherches en ligne pour vraiment avoir, concevoir leur propre expérience et atteindre une expérience de divertissement supérieur. Donc, comment analyser la qualité de ces mondes-là? C'est une bonne question. Jenkins, par exemple, suggère une piste de recherche intéressante en disant qu'il est important de tenir compte d'une consistance suffisante dans chaque était notre version, dans le fond, de ces mondes-là, dans un ensemble que, toutefois, on a une flexibilité qui nous permet de cette flexibilité qui est, en anglais, elle peut être adaptée dans différents types de représentations. Ici, on s'entend des médiums. Donc, est-ce qu'on peut lire à ça une certaine consistance, une cohérence dans un ensemble et une flexibilité. Donc, la consistance serait, dans ce cas-ci, la qualité du world building, donc la qualité du développement du monde fictionnel, développé de façon classique dans différents médiums. La cohérence serait la logique interne du monde, d'une instance à l'autre. Donc, ce serait la logique des différentes fictions. Et la flexibilité serait l'ouverture des contenus sous différentes formes de représentation, divers médias. Donc, un jeu vidéo devrait être assez riche pour permettre, par exemple, des romans de qualité, ce n'est pas souvent le cas, et un roman de ces franchises-là devrait permettre de créer un jeu intéressant. C'est pas nécessairement le cas non plus. Alors, quand on pense en logique de faire un monde cohérent. Donc, c'est ce qui conclut ma présentation. J'espère que vous avez appris plusieurs choses et je suis ouvert à répondre à vos questions. Est-ce que vous avez des questions par rapport à la petite illustration qui était sur votre invitation, sur l'affiche? Ça résume un peu ce qu'on avait aujourd'hui. Donc, on voit un interacteur avec une interface de souvent un appareil portable mobile, donc manipulation à touchscreen, dans le fond. Et on voit derrière une certaine forme de charte de processus, une développement dramatique et un personnage qui interagit avec un autre. Celui-ci, si ça vous intéresse, c'est Assassin's Creed Brotherhood, qui a été développé à Montréal. Fait intéressant, il a gagné l'année dernière le prix de la Writers Guild. Writers Guild of America, comme meilleur scénario de jeu. Donc, c'est une catégorie depuis quelques années qui est dans leur... qui est récompensé. Le scénario du meilleur film, bon, vous êtes plus familier, c'est d'Inception de Christopher Nolan. Donc, de voir que les jeux vidéo sont critiqués et jugés par les mêmes pairs qui travaillent sur d'autres formes médiatiques, c'est, de mon point de vue, ma foi, très encourageant et ça disons, indique plusieurs avenues prometteuses dans le futur pour le jeu et tous ces médias très reliés. Et merci beaucoup.
Merci Vincent, c'était riche et dense. Il y a plusieurs portes d'entrée selon nos compétences et nos champs spécifiques. Vous avez des questions, remarques?
Je vois comme un propre designer qu'on suit dans des équipes de travail. J'essaie de parler dans différentes langues, même si je ne suis pas vraiment spécialiste. J'espère que vous pourrez répondre à mon question.
La
compagnie Ubisoft, c'est derrière ce jeu-là. Assassin's Creed est une franchise vraiment majeure du côté des jeux. J'imagine que les équipes sont très portées sur l'anglais, l'international et tout. Mais le jeu se fait en français et en anglais. En fait, il y a plusieurs autres langues. Vous pouvez les choisir selon la recherche. Le jeu est sorti. Mais le fait que ce soit à Montréal, c'est d'ailleurs pourquoi la ville est très réputée. On est une. Bien positionné pour être autant côté francophone qu'anglophone l'Europe. C'est sûr que le travail dans l'industrie des jeux est beaucoup en anglais, comme la plupart des autres de l'industrie technologique aussi. Il y a beaucoup de travail à faire quand vous avez des liens, ce genre de choses. Mais il y a plusieurs langues possibles quand on joue au jeu, même le jeu détecte les paramètres de notre console. Mais le français, par exemple, il y a fait son jeu, des belles recherches sont faites à ce niveau-là. Oui, c'est ça. Même si le programmeur a même votre console, donc vous jouez sur Xbox, PlayStation, je ne sais pas. Si vous voulez toujours avoir les paramètres en français, quand vous allez mettre votre jeu va jouer en français. Ça peut être un peu gênant, parce qu'il y a des jeux qui sont moins bien traduits, évidemment. Le budget joue là-dessus aussi. Mais pour Ubisoft, ils mettent le paquet, la compagnie est en français.
Salut.
Les consommateurs vont demander toujours une expérience plus riche. Mais pour l'industrie, je pense qu'il y a aussi d'éducation à ce côté-là. On commence à déjà former les étudiants à ce niveau-là. Dans tous mes cours, je demande une recherche importante au début d'en faire tout concept de jeu. Sinon, on se ramasse avec encore un jeu de zombies, par exemple. Alors, c'est clair que si on forme les professionnels à travailler dans ce sens-là, ça va aller juste en s'améliorant, mais il faut garder en tête que les compagnies, ce qu'ils veulent, c'est faire un produit qu'ils vont vendre. Donc, c'est dommage, souvent, ils laissent ça de côté. Alors que c'est pas ce que je cherche, c'est dommage. On fait des années sur les technologies. Des affaires de transfert techniques très pointues. Alors que quelques employés, pendant quelques mois de travail, peuvent faire un concept qui va faire vendre plus. C'est le même. Ça s'applique aussi pour les films à grand déploiement. Je me demande où est-ce qu'ils sont recherchés. Mais non, c'est une question très intéressante. C'est assez actuel. Mais il y en a un autre, par exemple. Un économiste qui est embauché par Yves, la compagnie de simulation sociale, Yves en même, peut-être que vous connaissez, c'est un jeu quand même, il gère le marché des ressources dans cet univers-là. Donc, tous les principes économiques sont respectés, donc il y a des gens qui peuvent faire en fait de l'argent dans ce système-là de façon assez pointue. Ou sinon, des physiciens qui utilisent vos jeux assez souvent dans des équipes concepteurs de moteurs, que le jeu rentre le monde de façon plus réaliste possible, le vent, la structure du bâtiment, comme c'est pour le genre de choses. Lentement, mais sûrement. À mesure que mon complexité augmente, je pense que c'est possible. Merci.
De ce jeu qui a eu un prix à la Writers Guild, tu montrais bien la complexité de la documentation de la préparation. Dans le cadre de l'évaluation de la qualité du scénario, Place de façon large. Qu'est-ce qui est évalué? Est-ce qu'on le sait? Parce que là, il y a plein d'épaisseurs, à la fois des contrôles, à la fois l'univers, du scénario au sens technique, mais qu'est-ce qui est reconnu par ce prix-là?
C'est une très bonne question. J'aimerais voir le résultat parce que ça m'aiderait beaucoup à corriger des travaux. Surtout que pour ce jeu-là, il y a quand même des trucs qui sont assez linéaires. Les conversations sont importantes. Les personnages aussi sont très bien campés. Plus douter que si on suit la trame narrative principale du jeu, par laquelle tous les joueurs n'ont pas le choix de passer pour réussir, ils ont peut-être l'essentiel de ça. Parce que c'est évident qu'il y a certains choix qu'il va avoir, qui sont ouverts, il y a plusieurs expériences possibles. Je ne sais pas s'ils ont pris l'ensemble des données que ça comporte dans leur analyse. Mais ça peut être vraiment gigantesque. Il y a des jeux, ça fait 10 000 pages de dialogue. C'est incroyable. On a la guerre et la guerre. C'est pas tout le temps très pertinent non plus, ces dialogues-là. Ça peut être plus comme de rendre ça. Mais, Assassin's Creed, c'est presque cinématographique à la limite. Ubisoft, d'ailleurs, a acheté des studios de cinéma. À fil d'habitude, ceux qui ont fait 300, qui est un film très profond. Mais, on voit le lien avec la vidéo. Donc, c'est peut-être plus des jeux d'aventure, ce genre de choses. Mais, éventuellement, la richesse narrative, je crois, va être obligatoire au succès commercial, à mesure que la population va vieillir aussi, la culture aussi, développer. Mais c'est une excellente question. Oui. Oh, très bonne question. Il y a toujours des échanges aussi entre les différents médias, en fait. Mais c'est évident que le jeu vidéo est un médium plus jeune, donc il y a un concept développé par Bolton, qui parle de rémédiation, vous connaissez sans doute. Donc chaque médium qui apparaît prend la fin se construit sur le médium qui l'a précédé. Donc à ce niveau-là, le jeu, évidemment, se construit beaucoup sur le cinéma, mais à mesure que celui-ci mature, il développe ses propres esthétiques, ses propres règles, et après ça, toute sa popularité et son importance qui s'établit dans la sphère culturelle, mais le cinéma récupère ça à son tour. Donc aujourd'hui, je ne pourrais pas juger, répondre à cette question-là, par rapport à quel milieu plus important, mais c'est clair que pour s'est élaboré, il y a eu une influence majeure sur le cinéma. Les deux sont des médiums audiovisuels. Ça devient fort différent. Mais on remarque l'esthétisme vidéoludique dans les films contemporains à un budget, étant donné que, à la limite, la production peut devenir la même. Même dans Avatar, que vous connaissez sans doute, les graphiques du jeu, ils ont juste pris les modèles du film pour les appliquer, par exemple, pour les sources de certains personnages. Donc, il y a des contenus peuvent être changés. Donc, il y a beaucoup d'échanges des deux côtés. Oui. Je suis d'accord, cette leçon était quand même une côté, quoi, qu'il y ait des recherches qui se font de ce côté-là. J'ai un collègue doctoral à l'UDL, d'ailleurs, qui se penche profondément là-dessus. C'est sans doute parce que les visuels, c'est ce qui est plus travailleur, c'est ce qui est plus vendeur éventuellement, évidemment. Mais le son, à part pour le côté ambiophonique, mais c'est sûr qu'il y a des mécaniques de jeu qui peuvent être conçues sur des sons. Il y a beaucoup de jeux de rythme aujourd'hui qui sont plus. On parle de casual game, si je veux jouer entre amis dans mon salon, que la musique, les sons sont employés. Mais pour vraiment jouer sur l'esthétique originale, il faudrait aller dans le jeu d'auteur, où le son est au cœur de l'expérience. Et ma foi, il y a vraiment de la place pour le développement de la recherche à ce niveau-là. Il faudrait faire des projets de recherche ensemble. Parce que oui, il y a de la place à ça. On va toujours parler quand même. Même point. Donc, les mécaniques de jeu, photoréalisme, graphique. C'est une thèse de recherche.
Ton approche est intéressante parce que ça vient de compter un peu pour les littéraires, les gens qui sont plus du côté de l'étude, de la pratique culturelle. On a toujours une distance et on considère généralement l'objet comme fini. Il existe, le travail d'équipe, la planification, chacune des étapes, toute la dimension commerciale aussi, jeux vidéo, étaient des facteurs déterminants et qu'on ne pouvait pas laisser tomber comme on laisse tomber en littérature l'intentionnalité de l'auteur. Comment est-ce que tu vois ce rapport entre l'étude de l'objet lui-même et du processus? Est-ce qu'on peut vraiment les séparer maintenant qu'on a mis pied dans cette façon d'aborder l'objet, ou pour toi, c'est vraiment c'est de telle façon qu'on ne peut pas les séparer, qu'il faut les considérer comme des volets nécessaires pour l'étude.
En fait, je crois que toutes ces différentes approches-là sont pertinentes. Il faut juste bien prendre position quand on étudie l'objet, l'objet qu'on choisir par rapport à ça. Donc, c'est évident qu'on peut être extérieur à l'objet, étudier sa forme finie, mais il ne faut pas oublier que le jeu, c'est une structure formelle fermée, mais on parle de game, système, mais l'aspect play. Les anglophones ont deux mots, comme ça va vraiment bien en français. ça, c'est vraiment ouvert. Donc, le joueur, l'interacteur module cette réalité-là. Donc, le point de vue est vraiment important dans ce cas-là. Si on veut vraiment utiliser l'objet musclé ou la pratique ludique, c'est pour bien se positionner. C'est pour ça que parler de logique, ça peut être connoté, tandis qu'ils ont vraiment se sont concentrés sur l'objet, ses règles fixes et tout. Alors que les études du jeu, elles sont plus larges et vont, par exemple, prendre une perspective sociologique et même ethnographique. Je pense pas qu'il y en ait un qui soit privilégié, mais il faut vraiment bien se positionner et avoir la spécialité associée à orientation, recherche, choix. Il y a beaucoup de place pour la recherche. Il y a beaucoup de points qui sont plus similaires. Il faut être attentif.
Oui. Avec les cinémas, c'est possible quand même de leur soumettre des scénarios. Est-ce qu'il y a moyen de faire quelque chose de semblable pour le jeu vidéo?
Bonne question. C'est ça, il n'y a pas comme d'office général qu'on peut soumettre une dizaine de jeux qui vont être achetés par une compagnie. Et quoi, ce serait une belle idée de compagnie, mais d'entreprise. Mais non, le problème, c'est que, en fait, c'est comme pour les romans. Tout le monde a des idées, en fait. Donc, les compagnies n'en ont pas vraiment besoin. Quoique, si on fait ça, on leur envoie, c'est une bonne porte d'entrée pour aller dans ces entreprises-là. Quoi que c'est sûr qu'il y a des gens qui peuvent avoir peur de se faire voler de leurs idées, ça peut arriver. Pas que moi, il y a moins par la suite, quand même. Mais d'habitude, non, c'est ça. Ils vont vraiment engager les gens à temps plein pour travailler. Et aussi, ça, c'est un problème que le cinéma peut s'en tirer. Il y a des groupes intellectuels qui sont nécessaires pour élaborer un jeu. Aujourd'hui, avec un bon scénario, une bonne caméra HD, il y a 2-3 personnes compétentes, on peut faire un film d'auteur pour faire des petits festivals. On ne peut pas faire ça avec un jeu vidéo. Quoique les jeux d'auteur commencent à se développer avec les plateformes qui sont connectées en ligne. Il faut acheter des petits jeux à 1, 2, 5 $. Mais non, ça coûte très cher de développer ces choses-là. Donc, ils vont vraiment prendre des professionnels à l'interne qui contrôlent les employés, payer des process pour avoir accès à fond, celle de leur droit d'auteur.
Mais justement, c'est qui ces professionnels-là qui sont derrière la conception
qui est du scénario de la comédie. Ça, comme on a vu, il y a vraiment plusieurs personnes. Donc, on peut parler de game writer, donc les
pas l'auteur.
Ils sont engagés comme tels. Donc, il y en a
qui
soit qui travaillent dans les compagnies comme tels, donc c'est comme des scénaristes, ou bien ils sont engagés, il y en a qui sont engagés à distance. Au Québec, c'est un peu plus difficile parce que la plupart du temps, ça va être des Américains qui vont se faire lancer leur scénario de Marvel, par exemple. Donc, il n'y aura pas d'auteur ici. Mais sinon, il y aura d'autres gens qui vont avoir des tâches particulières, comme des narrative designers. Des anneaux narratifs, c'est un peu bizarre, mais eux vont vraiment s'intéresser à des événements ou les différentes instances possibles d'un dialogue ou d'une rencontre, par exemple. Ils peuvent être une bonne équipe. À Montréal, par exemple, un collègue, lui, il travaillait chez. Donc lui, son travail, c'était de faire, il y avait un niveau avec tel personnage, il gérait leur interaction possible, puis il a conclu leur dialogue. Donc il a tout travaillé pendant des mois, mais en plus, il travaille avec des programmeurs pour faire en sorte que les dialogues qu'il a écrits, il ne ferait pas son n'importe quoi, étant donné que pour que la programmation aille de pair. Mais il engage les gens. Donc pour ceux qui étudient le cinéma, le jeu vidéo, c'est vraiment un potentiel. Si vous êtes comme un gamer ou un futur du jeu, vous pouvez postuler. C'est la même chose qui travaille en comptabilité ou en marketing. Les compagnies sont très en demande. Non, Montréal est vraiment une place. Même à Québec, en fait, avec le niveau 4-6. On est dans le Montréal, troisième, peut-être deuxième aujourd'hui. Dans le top 5, c'est un nombre d'employés assez incroyable.
Oui, tu parlais du jeu de terre. Est-ce qu'il y a des plateformes libres?
Les logiciels qui sont fournis avec des jeux commerciaux qui vont permettre à des designers, des programmeurs indépendants, disons, un professionnel d'utiliser ces technologies-là pour développer leur qualité. Mais souvent, ces projets-là sont faits d'un tremplin pour aller du côté professionnel. Donc, il y a un souci encore de la place pour créer une communauté où des gens s'échangent du code pour inventer la boucle. Des mécaniques. Quoique, il y a souvent des pastiches qui sont faites. Le droit d'auteur de ce niveau-là, les mécaniques indiquent que si on prend un jeu, mais on change juste l'interface, on change le nom des personnages, est-ce que c'est le même jeu? C'est clair que si on regarde le code ou les règles, ça peut être la même chose au niveau du droit d'auteur. La loi est très en place. Je m'écarte un peu, mais non, il y a encore de la partie pour ça. Mais pour les technologies, c'est une bonne question. Mais soit des bouquins d'œil, c'est une compagnie. Ils vont donner leur un petit jeu. C'est très simple, genre de 8-16 de l'époque, avec un concept original. Puis ils vont emprunter un personnage d'un autre jeu indépendant. C'est clair que celui-là, soit qu'ils se sont à peine. Ils ont fait un public ensemble, ça va changer. Mais donc, ça fait beaucoup clin d'œil. Ceux qui aiment les jeux d'auteur, souvent, ils sont très fans. Des connexions. Une place pour la mise en commun. Je le sais, pour faire des vaches. Je suis là, mais sinon, il faudrait les développer. Oui, il y en a.
C'est peut-être la question que vous avez à jeu. Je me demande dans quelle mesure ça reflète l'évolution de la réalité, donc le fait que le modèle utilisé comme celui que j'imagine à quelqu'un, ou plus d'un par exemple, j'imagine vraiment la constellation d'éléments, parfois narratifs, parfois physiques, parfois l'un d'autre, parfois complètement d'ordre, dans l'environnement et prévisible. Dans quelle mesure ces systèmes utilisés sont une utopie face à sa répression de production qui mise plus sur le mode en part et le jeu de part.
Non, c'est clair, c'est aussi une façon d'aborder le sujet. Vraiment, cinéma et jeux vidéo, l'opposition, c'est plus une business plus aussi, mais quand même un respect possible. Mais par rapport à cette espèce d'exemple, c'est clair que les groupes complexes que ces différents médias-là peuvent former, ils sont enclenchés dans le monde fictionnel. Permettre de rélever. D'habitude, c'est une grosse mécanique économique matérielle. Donc, souvent, ça va être orienté pour faire des profits avec une franchise qui va être bien simple et tout. Donc, pour faire des œuvres plus fines dans des complexes, dans un type qui a beaucoup de travail à faire, je pense. Que ce soit des communautés d'auteurs, communautés de recherche. Tandis que les seuls, pour l'instant, qui ont des moyens, c'est ceux qui ont des moyens financiers, ce qui est très malheureux. Et surtout, un problème que j'aurais pu aborder à peine, c'est qu'il n'y a pas de langage, quand même, encore. Pas de langue, donc que toutes ces différentes spécialités puissent discuter ensemble pour établir ça et faire émerger une nouvelle forme médiatique ou utopiste. La place est là pour ça, mais c'est une réalité qu'on pense, c'est de facteurs en jeu. Est-ce que je réponds à la question?
Merci à Vincent pour cette présentation, discussion. Merci à vous de votre participation. Le café va se poursuivre probablement après les fêtes. Il y aura, comme à l'habitude, une séance ouverte dans deux semaines. Donc, les gens qui sont intéressés par le numérique sont bienvenus pour discuter à bâton rompu. Et comme je disais au départ, j'ai laissé une feuille à l'avance. Si vous n'êtes pas parmi ceux que j'ai identifiés spontanément, à qui j'envoie un courriel pour annoncer les prochaines séances, vous pouvez laisser votre courriel, vous inviter à la liste, vous pouvez avoir l'information de façon à le suivre d'un mois à l'autre.